Née Port-au-Prince, Haïti.
Magazine Créole, une émission conçue spécialement pour vous.
Radio Centre-Ville, avec ses équipes linguistiques, représente fièrement la mosaïque.
De 3 FM, Midi Info.
Jeudi 21 août 2025, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Auditeurs et auditrices, bonjour, bienvenue à ce bulletin de nouvelles. Au micro, je suis Claire Miros-Casimir. Voici les grands titres de cette édition. Plus de 2700 postes d'enseignants vacants à une semaine de la rentrée. La ville de Montréal estime que l'itinérance au Québec mérite un ministère à part entière. La commissaire à la déontologie policière du Québec, Mélanie Hillinger, essuie ces jours-ci de sérieux revers de la part du tribunal administratif de déontologie policière, le TADP. Le ministère libéral Franz Benjamin de Vio estime que le combat contre le racisme reste entier en dépit de certaines avancées au Québec. Allégeance à l'État islamique, un adolescent montréalais arrêté pour terrorisme. À la page internationale, République démocratique du Congo, 10 ans de prison requis contre Constant Mutamba. Et puis entre Benjamin Netanyahu et Emmanuel Macron, le ton monte nettement. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite après la pause. Bienvenue au développement de ce bulletin. À une semaine de la rentrée, les écoles publiques affichent désormais 2700 postes d'enseignants vacants, un chiffre inférieur à pareille date l'an dernier. Le Journal de Montréal rapporte qu'en proportion, 2,9% des postes sont vacants présentement, comparé à 4% à la même période en 2024. Il s'agit d'une amélioration significative puisque un peu plus de 4100 postes étaient vacants lors du premier bilan présenté la semaine dernière par Québec. Il reste du travail à faire, mais la tendance est positive. Les résultats sont encourageants, a déclaré le ministre de l'Éducation Bernard Drainville sur les réseaux sociaux mercredi. La situation est toutefois plus difficile dans certaines régions. À Laval, la proportion de postes vacants est de 5,7%, alors que ce nombre est de 4,3% à Montréal. Dans le nord du Québec, près d'un poste d'enseignant sur 10 est toujours vacant. Plusieurs de ces emplois devront toutefois être pourvu par des enseignements non légalement qualifiés qui ne détiennent pas de brevet en enseignement. C'est ce qu'avait reconnu le ministre Drainville la semaine dernière. Leur proportion est désormais estimée à 10% dans le réseau scolaire, un chiffre qui peut être beaucoup plus élevé dans certaines écoles. Les données concernant les postes vacants parmi les autres membres du personnel scolaire seront par ailleurs rendues publiques la semaine prochaine. Plusieurs acteurs du réseau scolaire craignent que les bouleversements engendrés par l'annonce des compressions en juin rendent le recrutement encore plus difficile cette année parmi le personnel de soutien notamment. La Fédération des centres de services scolaires indique toutefois ne pas avoir reçu de drapeau rouge à ce sujet selon les indications préliminaires. Par ailleurs, le nombre de postes total pour l'ensemble du réseau scolaire demeure moins élevé que l'an dernier malgré une hausse du nombre des élèves. La situation soulève des questions dans le réseau scolaire où des acteurs se demandent s'il s'agit d'une conséquence des restrictions budgétaires annoncées en juin. La Fédération des centres de services scolaires estime qu'il pourrait s'agir d'un des facteurs potentiels, mais avance plutôt des raisons méthodologiques pour expliquer la situation. Les centres de services scolaires ont maintenant une meilleure compréhension des données demandées par le ministère de l'Éducation, indique son président Dominique Robert. Autre point dans l'actualité. Alors que le gouvernement Legault prépare un remaniement ministériel, la mairesse Valérie Plante et plusieurs élus municipaux réclament une structure dédiée exclusivement à la crise de l'itinérance qui ne cesse de s'aggraver dans les grandes villes, mais aussi dans plusieurs régions. Actuellement, la responsabilité de ce dossier est partagée entre plusieurs ministères, ce qui nuirait à la cohérence et à la rapidité des actions selon la ville. Il faut une approche nationale coordonnée permanente, a déclaré un porte-parole de l'administration montréalaise. Rappelons qu'en 2024, le nombre de personnes en situation d'itinérance avait atteint un niveau record au Québec, avec plus de 10 000 personnes recensées, dont près de la moitié à Montréal. La décision finale reviendra bien sûr au premier ministre François Legault, qui devrait annoncer son nouveau cabinet au cours des prochains jours. Pour plus d'informations, voici Novo Info.
C'est qui, d'après vous, le ministre responsable de l'itinérance au Québec?
Il y en a-tu un?
C'est Lionel Carman.
Il n'y a aucun portefeuille, le gars, il n'y a rien.
À la veille du remaniement ministériel à Québec, la mairesse Plante invite le gouvernement Legault à créer un ministère de l'itinérance.
J'ai envie de vous dire que l'itinérance, elle aussi, a mérite d'avoir son Top Gun. Est-ce que c'était un désaveu envers M. Carman? Moi, je vous le dis, absolument pas.
Pour le maire d'Hochelaga-Maisonneuve, discuter avec un vrai ministre, ce serait plus facile. Il donne l'exemple des modulaires.
Ce qui a retardé le projet dans l'antique quartier-ville, c'est qu'on a été tenu par le ministère québécois de l'Environnement à respecter le même type de qualité du sol que si on faisait un bâtiment pour 100 ans. C'est le genre de modification administrative qu'un ministre en itinérance peut regarder.
Pourquoi vous lancez cet appel-là au gouvernement Legault à ce moment-ci, alors que la crise dure depuis le début de votre mandat?
Le gouvernement actuel se fait un remaniement. Donc, c'est une occasion à saisir.
Mais pour la candidate à la mairie de Montréal, la solution est simple et se trouve entre autres dans les bâtiments vacants de la ville qui sont laissés à l'abandon.
L'administration s'est beaucoup basée sur qu'est-ce que Québec et fédéral pouvaient faire. Moi, je pense qu'il faut dire qu'est-ce que moi, je peux faire.
Depuis 2011 que c'est inutilisé.
En avril 2024, Nouveau Info vous révélait la liste de 80 bâtiments vacants qui appartiennent à la ville et qui sont chauffés l'hiver.
Je ne peux pas comprendre qu'une ville ait acheté des bâtiments et des terrains sans avoir une vision claire. Quand je dis que la ville doit réfléchir comme un promoteur immobilier de l'abordable et du social, c'est qu'elle doit dire comment je veux m'assurer de développer les terrains qui nous appartiennent. S'assurer les permis sont gratuits, s'assurer qu'on est un vrai partenaire financier.
On a incroyablement innové, justement, ici. Je pense que c'est le plus grand symbole. Un bâtiment de la ville qu'on a décidé d'utiliser l'hiver dernier pour les personnes itinérantes.
Entre-temps, l'administration Plante reconduit le budget de dizaines d'organismes qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance.
Qu'est-ce que ça veut dire pour un organisme comme l'Anonyme, là, ce qui vient d'être annoncé aujourd'hui?
Bien, nous, en fait, c'est sûr que ça nous permet de continuer le travail qu'on fait sur le terrain. C'est sûr qu'on avait demandé un montant supplémentaire parce que les besoins sont immenses.
Plusieurs de ces organismes sont contre les démantèlements, mais aujourd'hui, la mairesse a répété que c'est un outil nécessaire lorsque les campements sont devenus non sécuritaires. La suite du débat en cour supérieure le 27 août prochain. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.
Dans deux décisions rendues en mars et en mai dernier, le tribunal a désavoué la commissaire Mélanie Hillinger pour avoir rejeté des plaintes liées à la Sûreté du Québec sans procéder à une analyse complète des faits. Dans la première affaire, il est question d'une poursuite policière à haute vitesse survenue en juin 2022 à Saint-Amboise-de-Kildare. La course poursuite amorcée en raison d'une plaque d'immatriculation fictive sur une Subaru à côté de la vie à deux adolescents de 16 ans. Le tribunal estime que la commissaire Mélanie Hillinger a occulté des éléments déterminants qui auraient pu démontrer un manquement de la part du policier conducteur, l'agent Jean-François Lavigne-Sauvé. Une citation a donc été ordonnée et l'enquête doit aussi se poursuivre sur son partenaire David McDuff dans un second dossier, une arrestation musclée sur l'autoroute 20 en juillet 2020 est mise en cause. Un homme y a perdu cette fois connaissance lors de son interpellation. Selon une vidéo de l'événement, l'agent Poliquin n'aurait pas respecté plusieurs droits fondamentaux du citoyen arrêté Pourtant, aucune enquête sérieuse n'avait été menée par la commissaire, conclut le TADP, qui ordonne cette fois encore une citation. Le tribunal note aussi que la Sûreté du Québec a tardé de 4 jours avant de signaler l'événement au Bureau des enquêtes indépendantes, en dépit de l'obligation légale de faire sans délai. Cette décision remet en question la rigueur de l'indépendance du processus déontologique au Québec. Certains observateurs, dont le plaignant à l'origine des deux dossiers, dénoncent une tendance systémique à minimiser les fautes policières et appellent à une réforme en profondeur du système. Et toujours dans l'actualité, le député libéral de Viau, Franz Benjamin, affirme que le combat contre le racisme reste entier, malgré certaines avancées au Québec. Invité de l'émission La Matinale à Montréal, le député de Viau a salué les progrès réalisés dans la reconnaissance des discriminations systémiques, notamment par le service de police de la ville de Montréal, SPVM, mais il rappelle que de nombreux obstacles persistent. Le voici au micro de nos collègues Israël Jacques Kikanta et Ismaïl Bonigaba, Franz Benjamin.
C'est une histoire qu'il connaît, je crois.
Oui, vas-y, Ismaïl. Je poserai peut-être la même question de toujours. C'est que c'est ce défi de taille qui vous a poussé dans la politique, le défi des Noirs, des immigrants en général. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi, quelle a été l'évolution, où est-ce qu'on en est à trouver une solution à cette problématique de toujours?
Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que cette évolution-là, est-ce qu'elle est palpable? Est-ce qu'on peut la toucher?
Là, je précise qu'il s'agit du racisme.
Ah, ben, bien sûr, on a bien compris.
Il y a des... Je vais commencer par les bonnes nouvelles.
Ouais.
Il y a des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, nous avons amélioré un peu la représentation. Moi, quand je suis arrivé... au conseil municipal de Montréal, c'était en 2009. Avant moi, il n'y avait que Kathleen Beauregard qui était à la première conseillère municipale, et avec Stéphanie Bidder qui était les seules élues municipales élues. Donc, et aujourd'hui, quand je regarde le conseil municipal de Montréal, le conseil municipal de Longueuil et d'autres municipalités, nous avons un peu amélioré la représentation de la diversité. Nous ne sommes plus à l'époque où l'on questionnait. Moi, je me rappelle en 2005, lorsque j'étais alors président du Conseil interculturel de Montréal, et le Conseil interculturel de Montréal venait de déposer un avis sur la problématique du profilage racial. Il s'en trouvait qu'il y avait des institutions qui questionnaient même l'existence du profilage racial. On n'en est plus là. On n'est plus là.
Mais je pense que, excusez-moi de vous interrompre, sur ce sujet de profilage racial, vous savez qu'il y a un procès
où Absolument.
Le gouvernement lui-même s'oppose à
Tout
l'avis
à fait.
Du juge.
En fait, ce que je dis, c'est que la police de Montréal reconnaît l'existence du profilage racial. À l'époque, la police de Montréal ne reconnaissait pas l'existence du profilage racial.
Ouais.
Maintenant, la bataille, le combat pour le profilage racial, ce combat-là est entier. C'est une lutte à finir. Encore aujourd'hui, il n'est pas rare que je rencontre des jeunes en particulier, issus des communautés noires, des communautés arabo-musulmanes ou des communautés latino-américaines, qui partagent avec moi des expériences de profilage racial. Donc, la lutte contre le racisme sera toujours une lutte à finir.
Ouais.
Sera toujours un combat à mener. Et gardons-nous surtout de penser que parce que nous avons combattu le bon combat, qu'il n'y a que des victoires. Non, au contraire. Il y a des petites avancées, constatons les petites avancées, mais sur la question de la justice sociale, la lutte contre le racisme, le combat est entier.
La gendarmerie royale du Canada, GRC, a annoncé avoir arrêté mercredi un adolescent montréalais qui aurait prêté allégeance au groupe armé État islamique et planifié un attentat terroriste. La presse rapporte que le jeune homme, qui était sous surveillance depuis un certain temps par la police, a été arrêté sans incident dans le quartier Côte-des-Neiges vers 13h30 mercredi. On sait qu'il avait prêté allégeance à l'État islamique à déclaré le caporal Eric Gass, porte-parole de la GRC. Il avait l'intention de se procurer des armes. On parle d'armes longues de type AK-47 pour une attaque. Il voulait commettre au moins une attaque au nom de l'État islamique. On sait qu'il travaillait là-dessus, affirme le caporal Gass, qui parle notamment de propos inquiétants tenus par le jeune sur les réseaux sociaux. Le jeune homme a comparu au tribunal de la jeunesse aujourd'hui. Il fait face à des accusations de facilitation d'une activité terroriste, participation à une activité d'un groupe terroriste et fournir ou rendre disponible des biens ou services à des fins terroristes. Comme il est mineur, l'accusé ne peut pas être identifié publiquement en vertu de la loi. L'enquête a été amorcée en avril dernier à la suite d'un signalement reçu au Centre de coordination provinciale de la menace gérée par la GRC. Le corps policier a profité de l'occasion pour inviter le public à signaler les propos menaçants aux autorités lorsqu'ils en sont témoins. Si vous voyez ou entendez quelque chose, n'hésitez pas à souligner Eric Gass. Et dans la page internationale, Madame Monsieur, en République démocratique du Congo, 10 ans de prison requis contre Constant Mutamba. Clôture des débats dans le procès ouvert depuis un mois contre l'ex-ministre congolais de la justice Constant Mutamba, accusé d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars. Le procureur a requis 10 ans de travaux forcés à son encontre quand la défense estime que rien ne saurait justifier la condamnation de Constant Mutamba, par ailleurs connu pour ses réformes judiciaires et critiques, bien exposé depuis plusieurs mois à la colère des magistrats. Pour la défense, aucun dollar n'a été détourné dans le cadre d'un marché controversé de construction de prison à Kisangani, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Il a, pour sa part, estimé que la procédure judiciaire n'avait qu'un seul but, l'écarter du gouvernement. L'arrêt de la haute cour sera rendu la semaine prochaine, soit le 27 août. Voici Africa News.
Le procureur congolais a requis 10 ans de travaux forcés contre l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba. Accusé d'avoir tenté de détourner 19 millions de dollars de fonds publics, M. Mutamba a eu l'occasion de prendre la parole ce mercredi, jour de clôture des plaidoiries. Il a notamment affirmé que cette procédure judiciaire avait pour seul but de l'écarter du gouvernement. Ses avocats affirment qu'aucun des fonds du marché de construction de la prison de Kisangani n'a été détourné, et justifie la bonne foi de l'ex-ministre par le fait qu'il ait copié l'ordre de paiement à l'inspection générale des finances et à d'autres organes de contrôle afin de suivre le mouvement des fonds virés dans le compte de l'entreprise de construction. Le procureur a également requis une privation d'accès à toute fonction officielle de 10 ans après qu'il ait purgé sa peine. Ce dernier considère que le virement a été opéré pour un marché irrégulier octroyé à, pour le citer, une entreprise de façade. Le verdict du procès ouvert, qui a débuté il y a un mois, a été fixé au 27 août 2025.
Le sport donne des ailes. Il compétitionne, il marque des points, elle se surpasse, elle gagne des championnats, mais surtout, elle nous inspire. À Radio Centre-Ville, le sport donne des ailes.
Et oui, le sport donne des ailes et il en donne beaucoup ces temps-ci. En plein mois d'août, c'est l'époque du mercato, à quelques semaines, peut-être même à quelques jours, des débuts de saison européenne de football. Pour discuter de ce qui se passe, parce que ça brasse beaucoup d'une équipe à l'autre, notre spécialiste footballistique qui comprend tout, qui prévoit tout et qui nous explique tout, bien entendu, la très célèbre Assil Toufali de l'Université Claude Bernard Lyon 1 en duplex avec Lyon, qui est toujours avec nous comme d'habitude. Assil, rebonjour et re-bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour François, merci beaucoup comme d'habitude pour l'invitation.
Ben, c'est toujours un grand plaisir, c'est un passage obligé chaque semaine et c'est toujours un honneur et un privilège de discuter foot avec la meilleure, n'est-ce pas? Voilà. Ben, parlons-en justement des meilleurs. Si tu veux, on va parler un petit clin d'œil sur la NWSL et les Ballons d'Or. L'attaquante Sofia Cantore, ex-Juventus de Turin, désormais au Washington Spirit, qui est en lice pour les Ballons d'Or, est la première Italienne à avoir été engagée en NWSL du côté du Washington Spirit. Et ça tombe bien, parce que le week-end dernier, elle a marqué le premier but pour son club. Ça s'est terminé 2-2 contre Racing Louisville. Mais je serais curieux de connaître ton opinion sur cette joueuse qui est ballon d'orable. Que penses-tu de cette joueuse?
Une joueuse, peut-être qui montre sa qualité. C'est surtout une joueuse que je considère un peu comme une surprise parce qu'on a vraiment l'habitude d'avoir d'autres joueuses qui prennent un peu le dessus de la scène internationale, qui montrent ses qualités, qui font tout un peu pour chercher ses trophées individuels. Et on a bien vu Cantore comment elle arrive un peu à je sais pas comment dire, mais à toucher vraiment ce graal très haut niveau avec ses clubs, donc c'est très intéressant à voir.
Alors, elle a de l'avenir au Washington Spirit, si j'ai bien compris, Adrienne Gonzalez va beaucoup l'utiliser sur le terrain.
Ah oui, j'imagine, surtout avec ce qu'elle est en train de faire, avec tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle reproduit sur le terrain, c'est top. Je peux pas te passer à côté d'une joueuse de ce calibre, ça c'est sûr.
Voilà. Bon, ben, ça va permettre au Washington Spirit de renaître un peu. Voilà. Parlons mercato. Eden Le Guilly, donc jeune sœur de Jade Le Guilly, qu'on connaît bien, deux joueuses du PSG. Eden Le Guilly, 19 ans, qui avait été prêtée au Havre la saison dernière et qui est désormais prêtée à l'Uvente UD, donc l'équipe de Valence en Liga FE pour la saison qui s'en vient. Est-ce que Eden est à l'image de sa sœur, une joueuse talentueuse?
Ben, je connais pas honnêtement très bien. Je n'ai pas trop suivi Eden. En fait, il y a quelques mois, j'étais même surprise d'avoir qu'elle avait une sœur, pour être honnête, mais à voir, parce que si Jade a pu intégrer l'effectif et devenir professionnelle comme ça, j'imagine qu'Eden, elle va aussi pouvoir gravir les échelons, donc c'est intéressant.
Voilà. Et parlant de Jade Le Guilly elle-même, joueuse titularisée PSG, qui reste au PSG, est-ce que c'est une joueuse clé au sein de l'équipe, puisqu'il est question des Le Guilly, parlons-en?
Oui, Jade Le Guilly a montré l'année dernière qu'elle devient une joueuse clé de cet effectif. C'est très bien pour elle, c'est très bien pour le club, parce que elle est joueuse du club, la fille du club, donc c'est très intéressant.
Voilà. Pour poursuivre sur le mercato, le RC Strasbourg-Alsace va recevoir la Colombienne Catalina Pérez, joueur d'expérience de plus de 30 ans, je crois, qui donc va joindre cette année le club alsacien. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le club qui a besoin d'effectifs, faut le dire, là?
Oui. Moi, à mon avis, peu importe le joueur ou la joueuse, c'est toujours un renfort, c'est toujours bien pour le club, donc c'est très, très bien, très important. À voir après combien de temps elle va prendre un peu pour s'acclimatiser au niveau et à l'effectif, mais c'est très intéressant, ça c'est sûr.
Voilà. Et est-ce que le RC Strasbourg-Alsace a des chances de bien performer cette année? Il faut le rappeler, c'est une équipe qui est arrivée nouvelle à la saison dernière, qui a quand même eu son parcours de combattante. Quelles sont tes prédictions pour le club cette année?
Déjà, le fait qu'elles ont pu rester en première division, c'est très bien. Ça, c'est excellent pour le club. Je sais qu'ils font pas mal de renforts. Il y a un bon budget consacré à l'équipe féminine. J'aimerais vraiment pouvoir voir s'ils vont mettre plus de moyens ou non. Mais pour l'instant, ça a l'air positif pour elles. Et j'imagine qu'ils vont pouvoir rester en première division.
Voilà. Parlons du FC Barcelone qui, on le voit, ne va pas très bien côté masculin et ça a des répercussions côté féminin quand je parle sur le plan économique. On vient d'apprendre que Fridalina Rolfo, en fait, c'était déjà un peu annoncé, quitte le FC Barcelone direction Manchester United. Est-ce que pour Manchester United, c'est une bonne nouvelle? J'imagine que oui.
Oh, c'est la meilleure nouvelle que le club peut avoir depuis des mois et des mois. Parce qu'une joueuse de ce calibre qui choisit de signé avec le club, c'est top, ça c'est top, c'est sûr que c'est top. Moi je voyais pas du tout ce truc venir. C'est très bien pour le club, ça c'est sûr.
Est-ce qu'elle va avoir un rôle important au sein de l'équipe?
Ah ben bien sûr, moi je pense qu'elle va être une des joueuses clés de l'effectif. Après c'est à voir si elle va être elle va avoir un rôle un peu défensif comme elle avait récemment avec le Barcelone ou elle va avoir un rôle un peu plus offensif, mais c'est top pour elle, même si elle, j'imagine qu'elle voulait bien rester au club et surtout pour pour le club.
Voilà. Et puisqu'il est question de Manchester United, parlons de l'internationale française Melvin Mallard, donc qu'on a vu à l'œuvre pendant l'Euro, qui dans les matchs préparatoires avait très bien joué, a même compté 3 buts, si je me souviens bien. Quelles sont tes attentes vis-à-vis Melvin Mallard en 2025-2026?
C'est toujours compliqué avec Melvin parce que des fois on a l'habitude qu'elle, on a l'impression qu'elle fait des excellentes performances. Après, elle rechute, elle ne redonne pas les mêmes performances. Donc vraiment, à voir ce qu'elle va pouvoir produire cette saison. Mais elle reste une joueuse clé de l'effectif. Elle a montré ses capacités l'année dernière. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire cette saison.
Voilà. Parlons des Ballons d'Or en terminant. La liste est sortie, donc pour mémoire, lundi 22 septembre du côté du Théâtre du Châtelet à Paris, c'est la cérémonie des Ballons d'Or, donc 30 joueuses en nomination. Ben écoute, parlons des deux Françaises, parce qu'il y en a deux retenues, Sandy Baltimore et Clara Matteo. Écoute, question difficile comme je les aime. Bon, il y a peu de chances qu'une des deux gagne, on va se le dire, ça risque de se jouer chez les joueuses de l'Arsenal qui ont gagné en plus leur Euro. Si tu devais faire un choix entre les deux, entre Baltimore et Matteo, laquelle choisirais-tu? Laquelle est la meilleure selon toi?
Ah, la saison que Matteo a fait en France, elle est top. Et Baltimore aussi, elle a fait une excellente saison. C'est très difficile comme choix, mais je sais pas, je dirais Baltimore, même si moi, du niveau personnel, c'est Matteo que je préfère, mais je dirais Baltimore.
Ben, quand on regarde depuis le début de l'année, du côté des Bleus, Sandy Baltimore, c'est la joueuse clé. Là, évidemment, avec Chelsea, ça ne s'est pas terminé comme elle l'aurait souhaité, mais cette année, c'est son année de rêve. Là. Dans les tournois internationaux, Baltimore, c'est un incontournable. Est-ce que ça pourrait jouer dans le choix des Ballons d'Or? Ben, je ne pense pas que ça va aboutir au premier des Ballons d'Or, mais c'est quand même louable.
Oui, mais je ne pense pas plus que ça. Moi, j'ai l'impression que le Ballon d'Or va vraiment partir. Moi, ce n'est pas vraiment un trophée individuel que j'apprécie parce que j'ai l'impression que c'est toujours la joueuse avec le plus, ou même le joueur avec plus de réseaux et de relations publiques qui le gagne. Alors, j'imagine que c'est entre les trois, Boutéas, Bormati et Russo, quoi.
Voilà. Et je terminerai en disant qu'il y a peut-être aussi Marta qu'il ne faudrait pas oublier. Elle est en fin de carrière. Elle a encore une Copa América gagnée il y a 2 semaines. Est-ce que les Ballons d'Or pourraient se dire, bon, c'est peut-être temps de lui rendre un hommage ultime parce que c'est quand même pas rien l'exploit qu'elle a accompli avec son club brésilien. Est-ce qu'elle a des chances de gagner? Moi, j'ai pas l'impression, mais est-ce qu'elle pourrait?
Non. Ça, c'est... Là, on est juste émotionnel, on est juste content d'avoir de telles joueuses. Mais non, je trouve que c'est très dur de pouvoir donner le titre à une joueuse comme Marta, car c'est parce que même si elle a fait pas mal de trucs cette saison, ça reste un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de matchs où elle était pas titulaire, etc. Donc non, je pense pas du tout.
Voilà. En terminant donc ce week-end du côté de Lyon, un match préparatoire, le FC Cannes contre l'autre FC Cannes, c'est-à-dire London City Lioness, qui visite l'OL Lyon. Premier match officiellement de l'OL Lyon sous ce nouveau nom. Bon, c'est un match amical. Quelles sont tes attentes vis-à-vis ce match?
J'ai pas entendu, ça a coupé. C'est quel match?
Oui, c'est le match préparatoire, le match amical entre London City Lioness et l'OL Lyon, donc qui a lieu ce week-end.
Ah,
donc,
ouais.
Le FC Cannes contre l'autre FC Cannes. Alors, quelles sont tes attentes?
Je vais le regarder le match. Je pars au stade le regarder. J'ai hâte de voir ce match, ce interclub, intercang match. Mais j'ai l'impression que l'OL a l'avantage. Il faut être honnête, les Lyonnais sont beaucoup mieux. Leur effectif est complet. Donc, j'imagine que c'est l'OL qui va avoir une victoire. Après, je ne sais pas si ça va être une victoire facile ou quoi, mais. J'ai hâte de regarder ce match. C'est le premier match ouvert au public avec Steve Valdez aussi, donc l'entraîneur de l'OL. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire.
Voilà. Et bon, l'OL Lyon, c'est assez prévisible, mais est-ce que London City Lioness, qui rentre en D1 du côté de la Women's Soccer League, va avoir beaucoup de boulot qui l'attend? C'est quand même un bon club, mais c'est pas une ligue facile non plus.
Ah oui, c'est pas du tout une ligue facile. Faut au moins chercher de rester en première division cette saison. Il y a eu pas mal de renforts cette saison. Ils ont signé pas mal de joueuses. Ils ont ramené beaucoup de joueuses expérimentées. Donc ça, c'est très bien pour elles. Mais à voir si elles vont pouvoir rester en première division. Je sais que ça doit être le premier objectif, ça, c'est sûr.
Voilà. Bref, bon match ce week-end et on s'en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Acile, pour cet entretien.
Merci beaucoup. À bientôt.
Le sport donne des ailes. Elle compétitionne, elle marque des points, elle se surpasse, elle gagne des championnats, mais surtout, elle nous inspire. À Radio Centre-Ville, le sport donne des ailes.
Madame, Monsieur, c'est ainsi que nous concluons ce radiojournal. L'équipe de Nouvelles vous remercie de votre fidélité. La coordination a été assurée par Ismaël Bounigaba et la réalisation par Jean-Claude Tranquille. À la présentation, Claire Miros-Casimir. D'ici là, nous vous souhaitons une agréable journée.
L'efficacité, la courtoisie, la ponctualité sont devenues les notes d'excellence de Maître Suzy Jean. Alors, sachez faire d'elle votre meilleur atout. Pour vos testaments, célébrations de mariage, achat de propriété, Maître Suzy Jean notaire. Maître Suzy Jean notaire, vous attend.